Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur Transistor, voici le journal radiophonique amplifié de ce jeudi 9 novembre. Ce soir encore, notre équipe est à pied d'œuvre et part à l'écoute des bruits du monde qu'elle vous retransmet, mixé, égalisé, monté et bien sûr amplifié, et ces bruits seront politiques. Tout d'abord avec le journal de Maë et François René, puis la revue de presse de Marie, et puis l'édito économique de Robin. Après quoi, nous passerons à des bruits culturels et puis aussi scientifiques dans la deuxième partie de l'émission, avec le journal de la culture de Léa et Sarah, puis le billet scientifique qui vous sera présenté pour la première fois par Pierre, et puis nous terminerons avec l'actualité de la radio. Mais pour l'instant, c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Maë et François René. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Rémi.
Bonsoir Rémi.
Le National d'abord. Le quinquennat de Macron ne sera pas marqué comme promis lors de sa campagne par une baisse du nucléaire à 50% d'ici 2025. Nicolas Hulot s'est exprimé à ce sujet mardi. Alors qu'il avait envisagé en juillet le projet réalisable, au rythme de 2 fermetures de réacteurs par an, il est revenu sur la question. Le ministre de la Transition écologique et solidaire estime que réduire autant la production d'électricité par le nucléaire se ferait au détriment de nos objectifs climatiques. Et ce, en raison des alternatives proposées au nucléaire qui ne sont autres que des très polluantes centrales à charbon ou au gaz.
Hulot a déclaré préférer le réalisme et la sincérité à la mystification.
Et on peut en l'occurrence s'interroger sur la sincérité des deux derniers présidents qui avaient fait cette promesse de baisse du nucléaire en France, à savoir Hollande et Macron. À l'Assemblée nationale, on discute la question des frais devant être défrayés pour les députés. Les questeurs ont présenté aujourd'hui une première liste de défraiements qui devraient être autorisés ou non au 1er janvier prochain, où la législation devrait changer sur le système d'avance accordé aux députés. Jusqu'alors, chaque député recevait 5 840 euros par mois qu'il pouvait utiliser à sa guise sans avoir à se justifier. Ils devront donc désormais fournir des justificatifs. Le parquet de Paris a ouvert une enquête lundi préliminaire pour menace de mort et apologie publique d'un acte de terrorisme à l'encontre de Charlie Hebdo. Dans son édition du 1er novembre, le journal satirique avait publié une caricature de l'islamologue Tariq Ramadan, récemment accusé de viol.
On le voyait représenter une impressionnante érection déformant son pantalon avec au-dessus de lui inscrit « Viole la défense de Tariq Ramadan, je suis le 6e pilier de l'islam ».
C'est cette une qui a déclenché des commentaires haineux et menaçants sur les réseaux sociaux. Le dessinateur Riss, à la tête de Charlie Hebdo, a précisé que les menaces n'avaient jamais vraiment cessé, mais que parfois elles prenaient, comme dans ce cas, une ampleur inquiétante. On rappelle également que Tariq Ramadan, visé par de nouvelles plaintes pour viol, a quant à lui été mis au congé de l'université d'Oxford ce mardi. Nouvel échec pour la Commission européenne qui a tenté une nouvelle fois aujourd'hui de voter le renouvellement de la licence du glyphosate pour une durée cette fois de 5 ans. Le vote n'est pas parvenu à dégager une majorité qualifiée. La France a voté contre, comme le rappelle Nicolas Hulot, fier d'avoir tenu bon contre un renouvellement de plus de 3 ans.
Alors que la licence de l'herbicide, classée cancérigène probable, expire le 15 décembre.
Exactement, si la Commission européenne ne trouve pas de solution d'ici là, on assistera non pas à la suppression du glyphosate dans la production agricole européenne, mais à une décision unilatérale prise par Bruxelles. Les Paradise Papers, à présent sujet qui fait l'actualité toute cette semaine.
Et oui, un an d'enquête, 13 millions de documents épluchés par 96 journaux issus de 67 pays. Et chaque jour de nouveaux noms apparaissent, des hommes d'affaires, Serge Dassault, Bernard Arnault, des multinationales, Apple, Nike, Uber, Total, des artistes comme Bono, Shakira, mais aussi le secrétaire américain au commerce Wilbur Ross, qui est un proche de Donald Trump, ainsi que Stephen Bronfman, ex-trésorier de la campagne du Premier ministre canadien Justin Trudeau.
Et quelle est la réponse des intéressés quand on leur demande si c'est vrai ?
Alors c'est toujours la même, tout cela est parfaitement légal. Finalement, les paradis fiscaux, c'est un peu comme jouer à chat perché. La souris court pour échapper au chat, saute sur un banc, enfin, comprenez, sur un paradis fiscal, et s'exclame « Perché !» Eh oui, plus le droit de me toucher. Mais vous savez, pour que le jeu reste dynamique, les souris ne doivent pas rester perchées tout le temps au même endroit. Il faut courir d'une cachette à une autre sans se faire toucher. Et il y a des souris très douées pour ça. Prenez Bernard Arnault, première fortune de France. Pas moins de 6 paradis fiscaux. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier, surtout quand on a beaucoup d'œufs. Un ton plus sérieux maintenant encore que avec le voyage de Donald Trump en Chine. Le président américain a signé aujourd'hui pour un montant astronomique de 250 milliards d'accords commerciaux avec la Chine, même si certains de ces accords sont non contraignants.
Un petit exemple peut-être ?
Oui, alors parmi les principales entreprises qui ont rempli leur carnet de commandes, Boeing, qui a signé en Chine un accord portant sur l'achat de 300 appareils pour un prix catalogue total de 37 milliards de dollars. Donald Trump, nous avons un déficit commercial colossal avec la Chine, les chiffres sont choquants, a-t-il indiqué de façon toujours directe comme ça lui ressemble, et il espère, je cite, fonder un avenir économique commun plus équitable. Rappelons que sur les 10 premiers mois de l'année, l'excédent commercial du géant asiatique vis-à-vis des États-Unis s'élevait à 223 milliards de dollars. Autrement dit, les États-Unis achètent infiniment plus à la Chine qu'ils ne vendent à cette même Chine. Toutefois, cette dépendance à l'égard de la Chine est aussi une interdépendance, puisque les États-Unis représentent logiquement le premier marché où les entreprises chinoises écoulent leurs produits. Il y a donc certes rivalité économique entre les deux géants, mais aussi souci commun que l'autre reste économiquement dynamique. Trump a d'ailleurs voulu la jouer ouvert et sympa envers Pékin. Je cite « Qui peut reprocher à un pays de profiter d'un autre pays pour le bien de ses citoyens ?»
Mais Trump n'est pas venu que pour ça quand même.
Et non. Il est également là pour des visées plus traditionnellement géopolitiques. Il a agrémenté sa tournée asiatique de tweets traditionnellement véhéments, comme à son habitude, et il a pu s'entretenir avec ses alliés dans la région, japonais et sud-coréens, concernant le cas nord-coréen. Et il a tenté de convaincre Xi Jinping de lâcher la Corée du Nord sans qu'on sache vraiment ce que ça a donné.
Un tournant conservateur en Autriche.
Oui. Secrétaire d'État à l'âge de 24 ans, ministre des Affaires étrangères à 27 ans et bientôt chancelier à seulement 31 ans. Côté jeunisme, voilà de quoi faire de la concurrence à Macron. Sébastien Kurz, le chef du parti chrétien conservateur, a mené son camp en tête des élections législatives en Autriche le 15 octobre avec 31% des voix. Depuis, il négocie une alliance de gouvernement avec l'extrême droite qui a atteint 25%. Depuis 10 ans, le parti de Sébastien Kurz gouvernait avec les sociodémocrates, mais voilà, la droitisation est en marche et celle de l'Autriche fait de plus en plus penser à celle qui se répand en Europe centrale.
Sujet long à présent. Mercredi 2 novembre, après 5 semaines de procès, la cour d'assises spéciale de Paris condamne Abdelkader Merah à 20 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes. On revient sur ce procès qui a suscité de nombreuses polémiques. « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère », s'exclame l'avocat de la Défense, Éric Dupond-Moretti, lors du procès Merah. Derrière cette jolie rhétorique d'avocat transparaît la dimension symbolique d'un procès qui, dans la sémantique même de son appellation, « procès Merah », instaure le doute sur ce qu'on juge dans la salle Voltaire du Palais de Justice de Paris. C'est un procès ultra sensible parce qu'il traite de l'horreur absolue, un homme qui assassine de sang-froid 7 personnes, sensible aussi parce qu'il se déroule après la vague d'attentats qui a frappé la France en 2015 et 2016, et parce qu'il appelle à la barre des victimes déchirantes et qu'il soulève la haine de l'opinion publique.
Et l'opinion publique, ou moins largement la partie civile, a fait appel au jugement du 2 novembre.
Tout à fait. Et ça illustre bien les débats, les désaccords autour du procès d'Abdelkader Merah qui nous incite, je crois, à nous interroger sur les fondements du droit et de la justice. Pour cela, je suis allée interroger Élise Jacquier, étudiante en master de droit judiciaire privé après une double licence de droit et philosophie, et lui ai demandé d'abord quel était le rôle de la justice.
Alors, en fait, pour parler de ce genre de problématique, il faudrait remonter à un auteur qui s'appelle Beccaria et qui a écrit, d'après beaucoup d'idées de Montesquieu, en fait, un ouvrage magnifique qui s'appelle « Des délits et des peines », que je conseille à tous nos auditeurs. Et en fait, dans cet ouvrage, Beccaria, il va vraiment parler de ce qu'apporte le procès pour la société, en fait. Parce que avant tout notre droit pénal moderne, on était dans un procès qui était très vengeur, en fait, qui venait apporter quelque chose aux victimes avec des peines spectaculaires, l'écartèlement, la torture, des peines de mort aussi qui étaient très violentes. Et Beccaria, il a mis en lumière que ce genre de peine n'était pas utile à la société, que ce qu'il fallait, c'était faire peur, mais faire peur dans une mesure qui devait être nécessaire, en fait. C'est une égalité entre le délit commis et la peine qui est encourue après. Et c'est ça qui est important dans ce procès, c'est qu'il y ait une égalité entre ce qui a été commis et la peine encourue.
La justice, ce n'est donc pas la vengeance, et le but n'est donc pas non plus de punir, mais bien de protéger la société. Sous cette lumière, on peut donc s'interroger sur le jugement rendu au procès Merah.
Abdelkader Merah, il a été condamné pour association de malfaiteurs en vue d'actes terroristes, et les parties civiles voulaient le faire condamner pour complicité d'assassinat. Donc qu'est-ce que tu penses de ce jugement ?
C'est là que tout le jugement est intéressant, en fait, parce que tout l'enjeu de ce procès était dans le fait de ne pas tomber sur une rétribution de la peine des victimes. Et à partir de ce moment-là, les juges devaient vraiment s'intéresser aux faits, en fait. Qu'est-ce que Abdelkader Merah avait fait qu'est-ce qu'on pouvait retenir de l'incrimination? Parce qu'en fait, une incrimination en droit pénal, qu'est-ce que c'est? C'est un élément moral, une intention. Qu'est-ce qu'il avait l'intention de faire? Et ça a été prouvé, son intention. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait factuellement? C'est-à-dire l'élément matériel, en fait, le délit matériel. Et là, c'est là que ça a posé problème pour la commission d'assassinat, c'est-à-dire que Abdelkader Merah n'a tué personne. La complicité d'assassinat ne pouvait être retenue du fait qu'il n'y avait aucun élément matériel qui corroborait ce genre d'incrimination. Ça.
On avait donc affaire ici à un procès difficile qui a été confié à une cour d'assises spéciale, réunissant non pas un jury citoyen mais des magistrats professionnels. C'est sur ce dernier point qu'Élise revient avec nous avant de conclure.
Alors déjà, on va faire un petit rappel historique parce que tout le monde n'est pas au courant de ce qu'est une cour d'assises spéciale. C'est quelque chose qui a été créé en 86 pendant un procès des terroristes d'Action Directe. Pendant ce procès d'Action Directe, en fait, tous les jurés ont reçu des menaces de mort et 5 d'entre eux ont décidé de ne pas venir se présenter au tribunal le lendemain. Et on a donc étendu avec une loi du 9 septembre 86 une juridiction d'assises spéciale qui était déjà existante et qui servait à juger les crimes commis par des militaires. Moi, je pense justement que cette cour d'assises spéciale était vraiment nécessaire pour ce procès en particulier, parce que justement, il y avait beaucoup d'émotions dans la salle, ça a été dit à la radio, à la télé. Et justement, le fait que ça ait été des magistrats, je pense que ça nous a permis aussi de garder une équité dans ce jugement, de garder une approche factuelle, une approche juriste en fait. Parce que le problème des jurés que l'on tire au sort parmi des personnes de la vie civile, c'est qu'ils n'ont aucune approche du droit et que sur des crimes de cette intensité et de cette importance aussi au regard social et de ce que ça apporte, il est important de garder aussi une vision distincte et assez éloignée aussi.
D'accord, et bien merci beaucoup Élise pour avoir répondu à mes questions.
On rappelle que le parquet général a fait appel au verdict de cette cour d'assises et qu'il y aura donc un nouveau procès Merah, mais qui vraisemblablement, à moins de nouvelles preuves, aboutira aux mêmes conclusions.
Merci beaucoup Maë et François-René pour votre journal, et ce journal va se terminer avec une petite intervention de François-René qui revient pour nous parler d'un petit décortiquage.
Tout à fait. Cette fois, petit décortiquage de mots. Petit décortiquage à partir de l'expression « Paradise Papers » ou plus précisément, décortiquage sur le choix des expressions, des petits mots « papers » mais aussi « leaks » par exemple dans Wikileaks ou « gate » ou quand on s'autorise à parler français, leur père à tous le mot « affaire ». Tous ces petits mots produits par les médias pour médiatiser un sujet. Ce petit mot qui ramasse la multiplicité des événements sous une même étiquette et qui est bien utile parce qu'il sert à savoir immédiatement de quoi l'on parle. Eh bien ces petits mots, on peut en faire l'histoire. C'est ce qu'avaient fait Luc Boltanski, Nicolas Offenstadt, Stéphane Van Damme, dans leur livre « Affaires, scandales et grandes causes » de Socrate à Pinochet. Ils ont conceptualisé ce qu'ils appellent la forme « affaire », c'est-à-dire pour médiatiser, on rajoute le petit mot « affaire » dedans, et ça marche. Alors, ils font remonter ça à l'affaire Dreyfus, et ce terme « affaire » a une grande postérité, on peut penser par exemple aujourd'hui à l'affaire Weinstein. Du côté de Gate, cette fois là où « affaire » était fille de l'affaire Dreyfus, et de la Belle Époque, le Gate est fille de la présidence Nixon, avec le Watergate, qui était l'immeuble où les républicains avaient posé des micros pour espionner les démocrates. Ça avait fait un énorme scandale, et cette postérité s'est vue, du mot Gate, s'est vue par exemple dans le Monica Gate, au moment des infidélités de Clinton, avec la stagiaire de la Maison Blanche, Monica Lewinsky. Enfin, Leaks est fille d'Internet, et souhaitons-lui, qui veut dire fuite en anglais, et souhaitons-lui une aussi longue carrière.
Vous écoutez le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et après cette petite explication de texte sur ce vocabulaire journalistique, eh bien on enchaîne justement avec la presse. Avec toi Marie, bonsoir.
Bonsoir Rémi.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec
Et on commence cette revue de presse avec notre bien-aimé Laurent Wauquiez, j'en perds mes mots là.
Mais tout à fait Rémi, alors dans l'Express cette semaine, le dossier central était dédié au candidat à la présidence des Républicains. Ça commence en couverture avec « Cet homme peut-il fédérer la droite ?». À l'intérieur de l'hebdomadaire, on retrouve le journaliste Éric Mandonnet qui a décidé de raisonner par l'absurde. S'il n'y a guère que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, alors Laurent Wauquiez est l'homme le plus intelligent du monde. Le ton du papier est assez moqueur, on y raille les petites manipulations et gros revirements de l'homme qui, en 15 ans, a parlé comme un centriste tout ce qu'il y a de plus macroniste, comme un Sarko, comme un Chiracien et comme une Marion Maréchal Le Pen, parfois à quelques mois d'intervalle seulement. Et pourtant, on sent vite poindre l'hommage sous la caricature. Laurent Wauquiez est certes une incroyable girouette, mais que voulez-vous ? C'est un homme de grande culture et sans conviction, dit l'un de ses compagnons de route. Est-ce qu'on vous avait dit qu'il avait fait Normal Sup, Sciences Po et l'ENA ? Oui, on vous l'a dit. Mais quel homme quand même. Laurent Wauquiez ose tout, et c'est bien pour ça que notre bon journaliste de droite l'admire. Écoutez-moi ce petit frisson d'excitation dans la fin de l'article, je cite « En cette fin de 2017, Laurent Wauquiez a atterri et posé ses bagages idéologiques. Pour combien de temps ? Demain, il vêtira ses nouveaux habits. Président du premier parti de droite. Attention au décollage. » Il me monte du désir dans le creux de mes reins, tout ça. Comme chanterait l'autre, c'est vulgaire, c'est médiocre. Que voulez-vous ? On est dans les colonnes de l'Express.
Bon, et à part ça aujourd'hui, sale temps pour Bernard Arnault dans la presse.
Et c'est le moins que l'on puisse dire, et il y a de quoi. Dans sa presse, ouais. On commence avec Le Monde, alors qui n'est quand même pas sa presse, qui poursuit jusqu'à la fin de la semaine ses révélations au sujet des Paradise Papers, et François Ornet vous en parlait un petit peu plus tôt. En gros titre donc, Trust Offshore, opacité des grandes fortunes, un dossier de 6 pages et c'est le patron de LVMH qui est tout particulièrement épinglé aujourd'hui. 4 journalistes sont intéressés à la luxueuse maison de famille du nord de Londres, décorée avec goût, grand parc, cours de tennis, tout confort, eau courante à tous les étages et surtout financée par une société écran basée à Jersey. Quand on lui demande si ce joli montage est déclaré au fisc, Bernard Arnault se refuse bien sûr à tout commentaire. Vous pourrez aussi jeter un œil en page 4 avec les trusts, une opacité pluricentenaire, dans une petite perspective historique qui n'est pas inintéressante. Vous saurez exactement ce qu'est un trust, comment ça fonctionne à la limite de la légalité et surtout pourquoi diable ça existe encore. Réponse, parce que le fisc français ne dispose d'aucun véritable registre des trusts comme on en a pour les paradis fiscaux.
Alors revenons quand même peut-être sur Bernard Arnault, si tu veux bien.
Allez, en une de Libération ce matin, optimisation fiscale, le business de l'ombre. Le dossier insiste plutôt sur le côté très professionnalisé de l'évasion fiscale, quasiment une filière économique à elle toute seule. Et ainsi, la première fortune de France aurait à sa disposition pas moins de 8 avocats de grands cabinets internationaux pour le conseiller. Sur la même page, vous retrouverez aussi un charmant petit portrait du, je cite, « bon samaritain » fiscalement évadé en Belgique, dont il a un temps penser demander la nationalité. Arnault est l'homme qui ne tient pas ses promesses, qui liquide les entreprises qu'il rachète et ne conserve que ce qui peut asseoir son empire du luxe. Comme conclut le journaliste de Libé, il suffit de surjouer un peu de mécénat dans la culture et les médias, d'installer une fondation Vuitton dans le bois de Boulogne avec la complaisance de l'État et tout est oublié. Merci patron.
Et d'après les colonnes du Canard enchaîné, les banques doivent plutôt remercier les pauvres.
Exactement Rémi, le Palmipède révèle que les banques font 4,9 milliards d'euros de bénéfices sur le dos des travailleurs pauvres. C'est ce que révèle une enquête commandée par des associations de consommateurs. Vous savez, ces mêmes associations auxquelles Macron veut retirer 40% de leurs subventions. Alors c'est très simple, un client moyen, s'il paye environ 34 euros de frais bancaires par an, eh bien un ménage en difficulté lui paiera plus de 500 euros par an, en frais punitifs pour découvert, en un mot, commençant, c'est du véritable racket.
Et à propos de racket des pauvres, on referme ta revue de presse avec une dernière petite suggestion. Alors, pas suggestion de racket, j'espère.
Non, absolument pas. Je vous recommande très chaudement l'enquête « Grande ville et bon sentiment » dans le numéro de novembre du Monde diplomatique qui vient de sortir. Benoît Bréville y démonte pour nous la nouvelle logique de l'attractivité des villes, telle qu'elle est pratiquée à Seattle et dans tellement d'autres grandes métropoles aujourd'hui. Le constat est simple, les autorités municipales ont un faux économiste et un vrai gourou, il s'appelle Florida, inventeur du concept de classe créative. L'idée, c'est que si votre ville attire un maximum de créatifs, c'est-à-dire des diplômés, des start-upers, des artistes, des cadres sup, que vous les accueillez en plein centre-ville avec des immeubles éco-responsables, des friperies, des restos sans gluten, qu'ils sont à deux pas de leur lieu de travail dans un cadre parfaitement idyllique, alors votre ville sera tout simplement sauvée de la crise. Bienvenue donc dans un monde où le droit à la ville est confisqué au profit des trentenaires blancs, aisés et célibataires. À Seattle, les classes populaires et la classe moyenne noire sont rejetées de plus en plus loin du centre-ville à cause des prix de l'immobilier toujours plus élevés. Toute cette population de caissières chez Starbucks, de vendeurs, de conducteurs chez Uber et de femmes de ménage, c'est aussi ça l'Amérique qui vote Trump. Ne pas loger les travailleurs dont l'économie a besoin, ce serait loin d'être la première contradiction du capitalisme. Et c'est tout Rémi pour ma revue de presse des 8 et 9 novembre.
Merci beaucoup Marie pour cette revue de presse. Et tout de suite, on parlait un petit peu d'économie. On va passer à toi Robin pour ce biais économique. Donc bonsoir Robin.
Bonsoir Rémi. Deux mois.
Et voilà la régie.
C'est la durée de la grève qu'envisagent de mettre en place les notaires grecs pour lutter contre la mise aux enchères de maisons saisies sous l'ordre du gouvernement Syriza. J'avais envie de vous parler un peu de la Grèce aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a pas mal de pays de l'OCDE, des pays riches, qui aujourd'hui se réjouissent d'une amélioration des conditions économiques. Mais la Grèce, c'est bien un pays qui reste touché encore aujourd'hui par la crise qui l'a frappé il y a bientôt 10 ans. Et on le voit bien dans l'actualité. Par exemple, Georgios Roskas, président du syndicat des notaires grecs, a annoncé hier le début d'une grève de 2 mois. Pour lutter contre le lancement d'enchères électroniques prévues par le gouvernement Syriza. Ces enchères électroniques sont imposées aux banques pour qu'elles vendent les propriétés qui ont été achetées par des prêts dits non productifs, c'est-à-dire des prêts que les propriétaires ne peuvent plus rembourser, souvent à cause de la crise bancaire, justement.
Tu es bien en train d'expliquer que des notaires entrent en grève pour lutter contre une saisie organisée par un gouvernement de gauche contre des propriétaires ruinés par la crise.
Exactement. Mais n'allez pas croire à un soudain élan de compassion par des notaires. Non, ils sont inquiets parce que depuis l'annonce de ces enchères, ils sont victimes d'attaques assez violentes de la part de groupes d'extrême gauche et notamment de groupes anarchistes. Ils sont notamment pris pour cible parce que ce sont eux qui sont en charge d'organiser ces saisies de biens et notamment de maisons qui sont saisies pour être vendues.
Désolé, chers auditeurs, mais quelqu'un vient de nous éteindre la lumière dans le studio.
Mais on n'a pas besoin
alors,
de
lumière. Alors, reprenons sur les notaires. Des lumières nous suffiront, voilà. Robin.
Donc, je parlais de notaires qui avaient leur bureau détruit par des groupes comme Rubicon. Notamment en mars dernier, par exemple, une agence athénienne avait été totalement détruite par un groupe anarchiste. À coups de batte de baseball, mais sans toucher au personnel.
Les notaires bourreux renoncent donc à leur tâche, peur de représailles, donc.
Exactement, enfin peut-être. D'ailleurs, ce que demande le syndicat des notaires n'est pas en fait tellement d'annuler les enchères, mais de les organiser dans un cadre qui assure leur sécurité. Ils voudraient par exemple que le ministre de la Justice grecque prenne en charge toute la supervision des enchères et des saisies. Et de toute façon, la tenue de ces enchères est perçue comme une fatalité dans la société grecque, enfin pour la majorité des gens, puisqu'elle ne vient pas en fait du gouvernement, mais est imposée par l'Union européenne.
Tiens donc, comment ça ?
Eh bien, dans son dernier projet de sauvetage, l'Union européenne a négocié avec le gouvernement Syriza une série de réformes contre une aide financière, comme elle a l'habitude de faire. Une de ces réformes visait à assainir le système bancaire grec, qui est de fait entaché par une petite saleté de 100 milliards de dollars de prêts non productifs. Vous savez, c'est ces prêts qu'on a attribués à des personnes qui ne peuvent plus aujourd'hui les rembourser, ces mêmes prêts qui d'ailleurs ont été à l'origine de la crise des subprimes aux États-Unis. Donc ces 100 000 milliards représentent tout de même 45% de l'ensemble des prêts du système bancaire grec, et c'est une situation qui crée un vrai risque pour quiconque a eu affaire un peu à la banque en Grèce.
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu affaire à la banque en Grèce.
Non, justement. Le risque vaut pour tout le monde, et peut-être encore plus pour les épargnants. L'argent qu'ont prêté les banques grecques ne vient pas de nulle part, en fait il correspond à l'argent mis en épargne par certains ménages dans ces mêmes banques. C'est le principe même de la banque qu'on appelle l'intermédiation. Il y a des gens qui d'un côté stockent de l'argent, ils le mettent sur un compte, et d'autres qui veulent qu'on leur prête de l'argent. Et du coup la banque se dit, pendant que le premier ne réclame pas son argent, je vais prêter cette somme à l'autre. C'est notamment pour ça que certains comptes, comme le PEL, ne peuvent pas être débités immédiatement. À grande échelle, normalement, ça marche bien, parce que si, par exemple, vous avez stocké de l'argent et que vous le réclamez, la banque peut trouver quelqu'un d'autre, lui prendre son argent à lui, parce qu'il est plus patient, et elle récupérera l'argent de celui... Enfin, et cette personne à qui on a récupéré l'argent, récupérera l'argent de celui à qui on avait prêté quand il remboursera.
Oula.
Un peu compliqué, mais ça marche quand il y a beaucoup de gens. Mais le problème, c'est donc si tout le monde vient tirer son argent en même temps, eh bien, on ne peut plus prêter, on ne peut plus rembourser les gens qui avaient stocké leur argent. Et c'est notamment ça qui s'est passé en 2010 et en 2015 et qui avait fait éclater le système bancaire grec. Et un autre problème, c'est que quand on sait que le prêt ne sera pas remboursé, comme aujourd'hui pour 45% des prêts, on se dit qu'il va finir par y avoir un problème avec ceux qui épargnent.
Alors du coup, la solution, si j'ai bien suivi, c'est de retirer leur maison aux gens ruinés à cause justement du système financier, pour schématiser.
Bah oui, ça permet de rembourser les prêts. Donc, c'est assez injuste si on le dit comme ça, mais en même temps, c'est un dilemme difficile à résoudre, puisque l'Europe demande une réduction donc, de ce stock de prêts non productifs pour éviter que la Grèce n'empire encore sa situation si l'économie est perturbée. Mais alors la seule solution pour les banques dans ce cas, c'est de faire valoir leurs droits d'hypothèque, c'est de saisir les biens. Et ça représente quand même 67 milliards, donc vraiment beaucoup. Et on comprend toutes les tensions sociales qui s'en suivent. Et franchement, quand les notaires en viennent à donner des leçons de socialisme à un gouvernement de gauche, on se dit que l'Union européenne a un sacré pouvoir de persuasion quand même.
En effet, merci beaucoup Robin pour cet édito économique et puis un grand merci à Maë pour ses talents d'électricienne et de manipulation d'interrupteur. Et tout de suite, avant de passer à la culture, une dernière petite info. Aujourd'hui, je vous propose un voyage en Arabie Saoudite, pays connu pour les avancées permanentes qu'il initie semaine après semaine dans l'ouverture de nouveaux droits fondamentaux. L'Arabie Saoudite qui va si vite sur le chemin des libertés individuelles qu'il lui aura fallu 2 mois pour passer du 19e siècle au 22e, écoutez plutôt. Fin septembre, les femmes obtiennent le droit de conduire dans ce pays qui était le dernier où les joies du volant leur étaient interdites. Et puis il y a quelques jours, dans la suite de cette mesure brutale et courageuse, la citoyenneté saoudienne a été octroyée à Sofia, une charmante jeune femme au sourire désarmant, composée principalement de circuits imprimés et de silicone, qui s'est dite, je cite, « très honorée et fière de recevoir cette distinction unique ». Naturalisée saoudienne, un robot quoi. Il y a de quoi s'étonner et j'avoue que ça m'effraie un peu. D'abord, bien sûr, parce que Sofia peut donc prétendre à un permis de conduire, ce qui peut poser quelques problèmes. Mais aussi parce que dans ce pays où l'intelligence artificielle est faite citoyenne, l'oppression nettement moins artificielle des femmes est inscrite à chaque page de la loi et on se surprend à rire un peu jaune de ce que cette Sofia n'a même pas à porter de voile, la salope. Bref, les droits humains, c'est du passé, vive les droits de la machine, on nous ressort toutes les décennies le mythe du robot tout-puissant. Avouez qu'on commence à y croire et qu'on se souvient du philosophe Jacques Ellul affirmant qu'une prodigieuse croissance de l'irresponsabilité caractérise le système technicien. Avouons qu'en termes d'irresponsabilité, on va loin, et c'est pas parce qu'il est plus utile et plus facile à débrancher que Jacques Chirac ou Alain Finkielkraut que je donnerai le droit de vote à mon grille-pain, aussi perfectionné soit-il. Ok Google, tu me passes l'indicatif de l'émission ? But before your eyes, they are
changing. Jusqu'à 21h,
le journal radiophonique amplifié de Transistor.
Et après les actualités, on passe à la culture. Bonsoir Sarah, bonsoir Léa.
Bonsoir Rémi.
C'est parti.
Les paupières, les rabelles, les berlioz, les pommes passants, les renoirs et les rembrandts qui survivent malgré le temps. Vive les Céline, les Zola, les Saint-Ex et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas. La culture est une...
C'est le moment de parler de culture, de théâtre et d'expo plus particulièrement, car Sarah et moi-même avons papillonné entre Lyon et Paris durant ces vacances et nous vous ramenons une petite sélection de notre mouture. D'abord, le théâtre. Sarah, tu as pu aller voir Mon Ange à Paris, c'était comment ?
Alors Mon Ange, par où commencer ? Vous noctambulez, oui, parce que le terme existe puisque je l'ai inventé, près de Ternes, et l'écriteau sur le kiosque de la petite place Fleurie attire votre attention. Billets pour le théâtre du jour à moitié prix. Et vous voilà embarqué dans je ne sais quelle aventure, la vendeuse vous ayant vivement recommandé cette pièce au nom très doux. Doux, eh bien c'est à voir. Car Mon Ange, on le découvre très vite, c'est le personnage principal de la pièce, et son père l'appelait ainsi, pour lui apprendre l'importance des arbres et des ancêtres, c'est bien joli, ou bien pour lui enjoindre à tirer dans des canettes avec un fusil assez méchant. Ce qui est moins doux. Et pourquoi s'entraîner ? dit la jeune pacifiste. Je préfère le tribunal de la justice à la scène de la guerre, pour reprendre le texte. Mon ange, rétorque papa, tu ne veux pas la guerre, mais si Daesh te fait la guerre, tu n'as pas le choix. Et voilà, mon ange, c'est l'itinéraire géographique et mental d'une jeune femme contrainte à porter les armes pour lutter contre les terroristes qui ravagent sa ferme, sa famille, sa jeunesse et qui ne font pas forcément du bien à son papa.
Tu m'avais parlé, Sarah, d'une sorte de violence dès les premières minutes. Tu pourrais nous en dire un peu plus ?
Oui, alors il faut absolument que je vous parle des impressions du début, parce que c'est assez spectaculaire. De mon point de vue, pas du tout renseignée et charmée par une agréable soirée, le premier coup de feu a été un choc. D'abord, il y a une fille qui arrive, elle crache ses mots, ses poings sont durement fermés, elle a la voix rauque et les épaules rétractées des animaux en détresse. Vêtue de noir, cheveux tirés en arrière, elle porte une arme, un fusil. J'oubliais le nom du fusil. Mais ça fait très, très peur, en fait. Et la scène est sombre. Alors mon amie ne se sentait pas très bien. Et je comprends. Je n'étais pas rassurée non plus, avec ces bruits affreux qui bourdonnaient partout, cette fumée suffocante qui jaillissait à chaque coup de mitraille. La mitraille. Eh bien, la mitraille, elle dialogue avec Lina El Arabi. Elle lui répond, elle envoie des claques. Et nous, pauvres oisifs plumitifs parisiens, nous sursautons et nous avons presque envie de fuir cette salle devenue Syrie en courant.
On dirait que l'intégration du spectateur dans cet univers de guerre est totale.
Alors oui et non. Disons que l'on est vraiment plongé dans la violence. Elle frissonne jusqu'à l'autre bout de la salle, elle nous hante après que les lumières se sont éteintes et que la comédienne sourit. Premier sourire chaleureux de Lina El Arabi, c'est quand elle salue. Et il y a une scène qui était horrible et m'a révoltée d'ailleurs parce que c'est une banalité pour des milliers d'êtres humains. Pendant une très longue minute, mon ange tenait la salle en joue avec son fusil. Et c'est pas très agréable. Une expérience à vivre en tout cas. Et c'est peut-être cette menace-là, où l'on se demande jusqu'où va aller mon ange, jusqu'où va aller cette fille écorchée et cynique qui nous remet les pieds sur terre. Les études de droit, bah, tout le monde n'y a pas droit. Je dis cela parce que la protagoniste rêvait avocate avant que Daesh ne la fasse guerrière. Et cependant, le spectateur n'est pas complètement intégré à l'univers, à l'histoire, en ce que la pièce est incroyablement railleuse. Mon ange met tout à distance, par nécessité. Dans un monde où les villes où les villes deviennent des charniers et où les femmes sont vendues comme des esclaves sexuelles et où les arbres sacrés sont brûlés, bah, c'est l'humour noir et la dérision qui sont les seules armes contre la folie. Et si la pièce est d'une violence à couper le souffle, le dramaturge Henry Naylor nous réserve quelques moments de détente où l'on rit franchement. Par exemple, le père de mon ange qui chante Beyoncé pour faire plaisir à sa fille avec sa grosse voix et ses muscles assez épais, c'était quand même hilarant.
C'était... hilarant, mais tu me disais qu'on ne le voyait pas, le monsieur sur scène, c'est ça ?
Oui, alors j'avais oublié de préciser ce détail ultra important. En fait, Lina El Arabi est seule sur les tréteaux tout au long de la pièce. Et c'est une performance remarquable pour une si jeune comédienne, qui d'ailleurs a été applaudie au Festival d'Avignon. C'est mon ange qui raconte son histoire, imitant vaguement ses proches ou ses ennemis. Donc il y a des changements de voix, de ton, de posture, qui font comprendre qu'elle nous rapporte les paroles d'un autre. Néanmoins, s'il y a quelqu'un qui parle, c'est bien mon ange et personne d'autre. Et même quand elle s'adresse au spectateur, parce que nous, on n'a plus de voix, on est à bout de souffle pour faire une petite private joke.
À voir donc, et c'est jusqu'au 30 décembre au théâtre Tristan Bernard à Paris.
Oui, et dans une Europe qui se pose pas mal de questions sur l'immigration, c'est plutôt intéressant pour les pacifistes et philosophes qui critiquent la violence pour vaincre la violence. Et défendre les valeurs du droit, allez-y, vous aurez une belle surprise. Et enfin, pour ceux qui veulent tester leur sang-froid, une épreuve inoubliable que vous offrent Lina El Arabi et le metteur en scène Jérémy Lipman. Alors, au sujet des questions politiques, ben je t'ai croisée hier au TNP, Léa.
Oui, pour voir Je suis Fassbinder, une pièce de Fauke Richter, mise en scène par lui-même et Stanislas Nordet. Alors Fassbinder, c'est qui ? C'est un metteur en scène et un réalisateur allemand dont la production couvre grosso modo les années 70. Et donc à cette époque, c'est aussi un regard sur l'Allemagne post-fasciste, en particulier dans un film qui a pas mal d'importance dans la pièce. C'est un film qui fait en 77, qui s'appelle L'Allemagne en automne. Avec cette pièce, son regard se retrouve projeté en 2017. Et il en vient à demander à contretemps où est-ce qu'on est finalement depuis les années 30, comment on se retrouve dans une Allemagne et une France tentée par la xénophobie et toujours engoncée dans des structures patriarcales. Alors Sarah, est-ce que tu nous donnerais ton avis sur cette pièce qu'on a vue hier ?
Oui, mais très très rapidement. Moi, l'aspect politique, en fait, c'était pas forcément ce qui m'avait le plus intéressé dans cette pièce. En revanche, je trouve que le côté relationnel entre les personnages qui étaient tous névrosés et qui faisait des actes assez inoubliables, eh bien, ça, c'était important.
On
et
a un hélicobite assez, enfin, très, très beau.
Oui, oui, très, très beau. Hein. Un beau Brésilien qui se déshabille. C'est sympathique.
Et oui, oui, oui.
Non, mais... Et toi, Léa?
Oh là, vous voilà. En perdez vos mots, là.
Alors, c'est un dispositif, oui, où la, comme tu disais, ouais, la pièce, c'est une sorte de scanner des êtres humains, de certains êtres humains à un moment T. Et donc, on attrape des lambeaux de doutes politiques, de souffrances existentielles, de douleurs amoureuses. C'est des cris, enfin...
Mais c'est vrai qu'avec un hélicobite...
Non, mais il y a ce côté drôle dit comme ça, mais j'en étais au moment un peu... Bon, ce sont des cris, et c'est des cris dans une langue qu'en tout cas, moi, j'avais jamais entendue, et je crois qu'ils tapent dans le mille. Des fois, c'est vraiment très juste. Faut aussi dire que cette pièce, elle est écrite de concert avec les comédiens, et on y sent que chacun s'y est un peu écorché. Après toute la partie politique, en effet, j'ai trouvé assez redondante et le discours sur le théâtre, je ne trouvais pas forcément non plus nécessaire. Mais quelle prouesse tout de même de réussir à entremêler ces voix différentes grâce à la vidéo notamment et à réveiller à partir d'une matière très politique toutes ces strates individuelles et réussir à tirer leur fond pré-réflexif, pulsionnel, pétri de frustration et de morbidité. Bon, maintenant qu'on a pas mal parlé de théâtre, on va peut-être passer aux expositions.
Yeah. Maintenant les expos et on retourne à Paris, c'est ça?
Oui, Sarah, direction le musée de la chasse et de la nature. Alors ça peut surprendre, mais c'est un de mes musées préférés, je crois, que je visite assez régulièrement. Alors c'est un hôtel particulier du Marais qui abrite évidemment des bestioles empaillées, mais aussi des objets d'art contemporain, des modèles de sciences naturelles, bref, tout ce qui peut retracer l'histoire des mœurs, mais surtout des mythes que l'homme a tissés autour de la nature. Ici, donc, pas de scission entre les domaines, c'est une approche très intuitive, sensorielle, immersive qui est développée. Donc, c'est pas un musée où on reste debout, c'est plutôt une sorte de grosse maison où on se blottit dans les canapés en se laissant imprégner par l'atmosphère. Et alors, quelle fut ma surprise dimanche, quand j'arrive dans ce musée d'ordinaire pas très fréquenté, et que je découvre une file immense devant pour aller à l'exposition temporaire. Bon, on aurait pu s'en douter, c'est l'expo de Sophie Calle, qui a une certaine renommée maintenant. Pour ceux qui la connaîtraient pas, elle a cette particularité de faire de sa vie une œuvre. Et donc là, elle a déposé un peu partout, dans le musée, des œuvres, et à chaque fois, à côté, un cadre et quelques lignes qui évoquent un petit bout de sa vie. Donc c'est une nouvelle creusée dans son intimité, et elle s'approprie complètement ce lieu. Parce qu'en fait, à l'aune du thème de l'animal et de la chasse, on peut relire tout son passé familial et affectif, et il y a en même temps une très grande mélancolie qui s'en dégage. Il y a par exemple une très belle statue blanche dans une matière presque translucide, et cette statue, elle pleure. Il y a vraiment de l'eau qui ruisselle à partir de ses paupières. Cette œuvre est entourée de défenses, de sangliers qui pourraient la protéger ou la menacer. Enfin, c'est un exemple comme un autre pour dire que les œuvres temporaires et permanentes se répondent parfaitement. Donc là, voilà, pour moi, Sophie Calle, elle pousse vraiment la question de faire une exposition dans un musée qui abrite déjà une collection permanente.
Et tout ce monde, en fait, ça ne t'a pas gêné pour approcher une œuvre aussi intime?
Mais justement, c'est un peu aussi à cela que je jauge la puissance de cette exposition et du musée qui l'abrite. C'est que la foule ne m'a pas empêchée d'avoir une expérience d'extrême proximité avec le propos de Sophie Calle. Bon, évidemment, je souhaite à nos auditeurs de visiter l'exposition le plus tranquillement possible.
Eh bien, super. Et dans ce cas, c'est jusqu'à quand?
Elle dure jusqu'en février 2018 et c'est gratuit tous les premiers dimanches du mois.
Et alors, tu as pu aller à la Maison Rouge aussi?
Oui, alors la Maison Rouge, bah, encore un lieu bien particulier. C'est une fondation qui a pu montrer beaucoup de choses avant qu'elle ne devienne labellisée, entre guillemets, par un marché de l'art. C'est aussi un lieu qui va fermer l'année prochaine. Alors cette exposition, je crois que c'est son avant-dernière. Elle s'appelle « Étrangers résidents ». C'est la collection privée d'un certain Karmitz, qui est producteur et réalisateur de cinéma. D'ailleurs, on entre dans l'exposition par un rideau sur lequel est projeté un film. C'est une installation de Boltanski. Et derrière ce film, on trouve quoi? Eh bien, à peu près tout. On se croirait chez Abby Warburg. Ça va des statuettes précolombiennes aux ballons gonflés en forme de ciseaux d'Annette Messager, en passant par Dubuffet,
D'ailleurs, une partie de sa production qu'on connaît beaucoup moins, très terrestre, très organique. Mais dans cette collection, il y a tout de même une dominante. C'est la photographie, qui occupe la part la plus importante. Des centaines de clichés en noir et blanc. J'ai particulièrement retenu Michael Ackerman. C'est un photographe américain qui saisit comme ça des visages fantomatiques qui passent très brièvement dans un paysage urbain. C'est des gestes un peu pris à la dérobée dans les années SIDA et tout est empreint d'une certaine grâce. Enfin, il y a définitivement quelque chose de la fragilité et du tragique qui semble animer ce Karmitz. D'ailleurs, on peut voir dans l'exposition son adaptation filmique de comédie de Beckett. Trois personnages dans des jarres, coincés, chacun dans leur monologue. Et Karmitz joue avec leur voix, les accélère ou baisse le son, et il parvient à rendre le rythme terrifiant comme ça de la pièce de Beckett. Enfin, beaucoup de surprises dans cette collection, Brancusi, Manet, Fromanger. Enfin, je la conseille vivement, c'est jusqu'en janvier 2018, et c'est au bord du port de l'Arsenal.
Bon, assez parlé de Paris.
Assez parlé de Paris. Parlons maintenant des expositions à Lyon. Tu en as vu pendant les vacances ?
Mais oui, et il est vraiment temps de parler de notre cher Lyon, parce que c'est Paris qui monopolise notre JRA et ça commence à bien faire. Je plaisante. Il faut savoir qu'il est aussi agréable de flâner ici que dans la capitale. Et chers auditeurs, amusez-vous donc à escalader les pentes de la Croix-Rousse. C'est bien pour la santé, mais il y a surtout plein de mignons petits fanions suspendus dans la montée au joli pavé, dont j'ai oublié le nom, pardon. Amateurs de photos, vous tomberez peut-être sur une galerie sympathique.
Oui, j'ai l'impression que les petites galeries d'art, c'est un peu comme la salle sur demande dans Harry Potter.
Mais oui, et d'ailleurs, on va clasher toutes les personnes qui ne connaissent pas la salle sur demande. Oui, alors elle nous échappe la plupart du temps, mais quand nous sommes bien à l'affût et que nous prions pour tomber sur un havre sympathique, tadam, une galerie d'art apparaît. Et quand je découvris Regard Sud, non, je n'étais pas poursuivie par une meute de chiens sauvages ni de paparazzi en furie, ben, ça peut arriver à tout le monde, mais par une pluie diluvienne. Bref, j'entrais. Je croyais que c'était des tableaux, un peu du style Hopper ou David Hockney, qui m'aguichaient derrière les vitres bien propres. Images figées, personnages quasi inexpressifs quand on voit leur visage, car ça n'arrive pas beaucoup, décors urbains comme givrés, à l'exception d'une plage. Je m'approche. Stupeur. Ce sont des photographies. Hicham Gardaf nous offre des clichés de la banlieue marocaine, en fait. Recherche à laquelle il consacra ses trois dernières années, et avec succès. En effet, c'est d'abord dans le cadre de la Biennale de Lyon 2017 qu'il est exposé ici, remarqué pour ses travaux. Et Regard Sud, c'est une galerie qui promeut des personnalités, internationales ou émergentes, du Maghreb et du Moyen-Orient. Voilà donc pourquoi les photos recelaient autant de voiles et de longues étoffes flottantes.
Et alors pourquoi tu disais qu'on voyait pas toujours le personnage des... Enfin, le visage des personnages, ils sont coupés, ils sont de dos, comment ils sont représentés ?
Alors non, ils ne sont pas coupés, parce que le cadrage est en général en pied, mais ils sont effectivement de dos. Bon, je ne vais pas partir dans des références à la Caspar David Friedrich, mais c'est quand même très intéressant de voir les échos qui s'instaurent en fait entre le nord et le sud, la peinture et la photo. Et le spectateur entre d'autant plus facilement dans la composition qu'il regarde un regardeur, et son œil se focalise dès lors davantage sur le décor, sur la scène, que sur les détails d'un visage.
D'ailleurs, le titre de l'exposition est assez évocateur, non ?
Oui, clairement, c'est le cadre qui intéresse Hicham Gardaf dans « Quelle architecture pour la banlieue ? Extrait d'intersection. Ruines sur d'anciens parkings à faire saliver d'autres romantiques, je pense ici à Robert Hubert, ou les passionnés d'urbex, café marocain à l'ambiance vert foncé, plage déserte avec une vaste ligne d'horizon, ou au contraire, gros plan sur de petits pans de murs non jaunes mais rouges. Encore une private joke pour ceux qui connaissent le drame de Bergotte. Et il y en a pour tous les goûts. On découvre ainsi de multiples facettes d'une même zone. C'est un travail de photographe-géographe qui me fait rebondir, si je puis me le permettre, sur une annonce express.
Ah, et quelle est-elle ?
Eh bien, je signale d'abord que l'exposition de Hicham Gardaf est en place jusqu'au 18 novembre, et vraiment, c'est pas mal du tout. Et en plus, il y a un petit livret à l'intérieur qui explique son travail. Et puis, bah, c'est pas long du tout, et c'est tout près de café fort charmant. Bon, l'autre exposition, à saveur banlieusarde, c'est celle de l'association Art Image, créée en 97, je crois. En fait, je sirotais un café allongé avec deux amis près de Pompidou. Alors, pas le monsieur ni son fantôme, hein, mais le machin géant très coloré qui vend des rhinocéros rouges, quand l'une d'entre elles sort son téléphone et soupire avec agacement. Que se passe-t-il ? Eh bien, son coéquipier l'insupporte. Son coéquipier ? Ben oui, cela fait depuis un an qu'il travaille sur la scénographie d'un événement photographique. Alors je sors tout de suite mon carnet et mon plume en dépit d'un vent frisqué et dissuasif. J'en parlerai à la radio. J'espère qu'elle m'écoute. Alors voilà, Léonore, étudiante au Louvre, participe au festival Territoire en images organisé à l'Institut Géographique de Paris. Je fais un petit clin d'œil à certains géographes par ici. Et c'est très sympathique. Il y a des photographes qui vont exposer des projets sur la représentation de la ville et de sa couronne urbaine, pas royale quand même. Et à la fin du festival, qui est d'une brièveté malheureuse, on peut voter pour notre projet préféré. Non, ne me soupçonnez pas de corruption, je ne pourrais pas voter pour Léonore, puisqu'elle est scénographe, et quoique réelle amatrice d'art, pas encore photographe-géographe. Mais j'espère que ça ne saurait tarder. Ah, quand la géographie se pique d'art et se prend à la poésie urbaine, et qu'est-ce qui va nous rester à nous, les plumitifs et artistes en tout genre ?
Voilà, et l'expo se passe entre le 23 et le 25 novembre. Soyez nombreux et ne faites pas comme Sarah, soutenez un petit peu la géo. J'aimerais quant à moi glisser une petite annonce. Samedi, le MAMC, le Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne, rouvre ses portes et pas pour n'importe qui. C'est Anish Kapoor qui sera exposé dans la grande salle centrale. Ce sera aussi les 30 ans du musée qui propose alors une sélection de sa collection sous un même fil narratif. Considérer le monde, ses utopies et ses tragédies du 16e au 21e siècle. Un très vaste programme qu'on a hâte de découvrir.
Bon, alors, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Elle est un peu morte depuis un moment, mais c'est pas grave, on va quand même célébrer son anniversaire de naissance. C'est une réalisatrice, actrice et inventrice ou inventeuse, je sais plus trop en ce moment, d'origine autrichienne et qui a émigré aux États-Unis. Alors, vous pouvez essayer de deviner, chers auditeurs, ce sera très rigolo. Elle porte presque le même nom que la petite fille avec son gros chien très fluffy dans un mignon dessin animé. Et plus clairement, c'est une jolie dame née un 9 novembre, en 1914, qui a inventé la technique Lamar, un système de codage de transmission ou de spectre, moi je sais pas très bien, qui nous aide bien dans la téléphonie et Internet. Bon alors vous avez trouvé, vous avez tous les indices. C'est Heidi Lamar, dont la filmographie, disponible sur Internet, est assez étendue. Bonne soirée à tous et à toutes, et soufflons les bougies pour la pauvre Heidi, qui a déjà rendu son dernier souffle en janvier 2000.
Eh bien, dis donc, c'est particulièrement joyeuse pour cette pauvre Heidi qui est morte, qui est morte en 2000. Mais malgré tout, souhaitons lui un joyeux anniversaire. Oula, c'est dur de redémarrer après 16 minutes de ce florissant journal de la culture. Et la culture se poursuit avec la culture scientifique. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Rémi.
Alors, comment ça se fait que tu es en tongs et en manches courtes alors qu'il fait si froid dehors ?
Eh bien, détrompe-toi, Rémi. Tu penses qu'il fait froid, mais en fait, 2017 est plutôt une année à donner de grosses sueurs, et c'est exactement ce dont on va parler ce soir. Air-conditioned bunker
where the Norwegians have stored heritage. Pour revenir aux origines du massif hercynien, il faut faire un bond de
90% of blue and red light is absorbed in the upper one-fifth of a spinach leaf.
Le paramètre qui va caractériser l'ordre du système va être discontinu à la fin.
Et oui, chers amis frileux, sachez que ce sont des révélations peu joyeuses que nous livre l'Organisation Météorologique Mondiale, puisque d'après elle, 2017 s'annonce comme l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées de l'histoire de l'homme. L'année 2017 viendrait ainsi se placer derrière 2016 et 2015, alors que notre décennie est d'ores et déjà la plus chaude jamais enregistrée par l'OMM.
Et du coup, pourquoi 2017 serait une année exceptionnelle ?
Eh bien, en fait, il s'avère que pour établir leur record de température, 2015 et 2016 ont profité d'un phénomène très connu chez les climatologues, le phénomène El Niño. El Niño, c'est en fait une période longue d'un à deux ans, durant laquelle les eaux de surface du Pacifique Est à proximité de l'équateur se réchauffent anormalement.
Et pourquoi est-ce qu'il y a des années avec et d'autres sans ce El Niño ?
Eh bien, l'explication du phénomène serait en fait une inversion des vents alizés qui soufflent dans cette partie du Pacifique. Usuellement, les alizés soufflent de l'Amérique vers l'Asie et l'Océanie, ce qui a pour effet de pousser les eaux de surface chaude vers les côtes asiatiques et australiennes, alors que les côtes américaines subissent une remontée d'eau froide. En période de El Niño, les alizés soufflent dans l'autre sens, donc d'Australie vers l'Amérique, et on a alors une remontée d'eau chaude près des côtes américaines.
Mais c'est que de l'eau qui devient plus chaude, alors en quoi ça explique des records de chaleur ?
Eh bien, El Niño provoque de fortes perturbations atmosphériques locales, alors qu'il y a généralement de fortes précipitations en Australie et en Asie du Sud-Est. Par période de El Niño, une grande sécheresse s'installe, et le réchauffement des eaux près des côtes américaines favorise la formation de cyclones dans le Pacifique, qui dévient vers la Philippine. Mais bien au-delà du Pacifique, on estime qu'en période de El Niño, la température moyenne mondiale de l'année augmente de près de 0,5 degrés Celsius.
Bon, et alors du coup, s'il n'y a pas El Niño cette année, pourquoi 2017 est donc une année si chaude ?
Eh bien, 2017 est une année exceptionnelle car elle représente une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre bien plus forte que les années précédentes, ce qui n'est pas vraiment très réjouissant. On sait que ce taux d'augmentation s'accroît régulièrement, mais cette année, il a augmenté presque deux fois plus que la normale. La concentration en CO2 a augmenté, mais celle de gaz bien plus polluants comme les oxydes d'azote et le méthane a explosé, la faute à un mauvais renouvellement d'air dans l'atmosphère, à cause, encore une fois, des fortes chaleurs.
Bon alors dites-nous au moins que c'est peut-être que passager et qu'on court pas à la catastrophe.
J'adorerais pouvoir te dire ça, Rémi, mais malheureusement, tous les voyants à long terme sont rouges. Une sécheresse durable s'est installée en Afrique de l'Est depuis déjà plusieurs années et les courants marins, régulateurs du climat mondial car pouvant réguler la température de gigantesques masses d'air, sont complètement détraqués par les fortes chaleurs. Les océans n'ont jamais été aussi acides, la fonte de la banquise confirme son avancée inexorable.
Bon, alors peut-être que la COP23 nous sauvera, t'as mis ça dans les relances, mais je sens que c'est juste pour amener le sujet.
Oui, mais c'est vrai que la COP23 a démarré il y a 3 jours à Bonn en Allemagne, mais pour le moment, les discussions sont uniquement tournées sur le moyen d'appliquer l'accord de Paris réalisé durant la COP21 et qui n'a toujours pas été mis en place, principalement à cause de la mauvaise volonté du nouveau président américain à s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les experts estiment déjà que la limitation à plus de 2 degrés Celsius de la température moyenne du globe d'ici à 2050 n'est plus réalisable et que la limiter à 3 degrés Celsius serait déjà un très grand pas. D'autant que des arguments économiques commencent à entrer en jeu. Le passage des ouragans Harvey et Irma a engendré près de 300 milliards de dollars de dommages, tandis que l'on chiffre en dizaines de milliards le montant estimé des réparations à effectuer dans les Antilles françaises. Pas de répit à l'horizon, mais voyons le bon côté des choses. On pourra se promener en short et en tongs l'hiver.
Peut-être sous nos latitudes, mais malheureusement aux Antilles françaises, ça risque d'être un petit peu difficile. En tout cas, merci beaucoup pour ces nouvelles. Elles ne sont pas forcément toujours agréables à entendre, mais il faut bien vous les donner, chers auditeurs. Et pour finir, des nouvelles pas forcément extrêmement agréables, mais quand même peut-être un peu moins cruciales concernant l'actualité de la radio. C'est parti pour Onde Courte.
Onde Courte.
Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à la rentrée, je vous l'avais dit, la disparition tragique des petits matins, remplacée par une pâle imitation qui me donne des envies de métaphore fécale, avait un petit peu ruiné mon réveil quotidien. J'avais pas parlé des matins de Guillaume Herner, ceux qui viennent juste après et qui se sont effondrés depuis le début de cette 3e saison. Alors, quand Herner était arrivé, on avait remplacé le charisme de Marc Voinchet par un choix d'invité pertinent, engagé pour des entretiens souvent très intéressants. Mais cette année, patatras, je veux pas savoir ce qui s'est passé à la direction de la Maison Ronde, mais ces matins sont devenus une caisse de résonance molle et qui plus est désorganisée, de la soupe étatique. Alors puisque France Culture se transformait en France Inter, je suis allé sur France Inter. Mais là, horreur, j'ai vu que France Inter s'était transformée en France Pub. Oui, alors le sujet d'aujourd'hui, c'est une tribune qui a été publiée en octobre sur le Huffington Post par un certain Philippe Kieffer, intitulée « Où s'arrêtera le saccage publicitaire de France Inter ?» C'est un sujet dont on n'avait pas parlé lorsqu'en 2016, un décret avait autorisé 30 minutes de publicité commerciale par jour et au maximum 14 minutes par heure sur France Inter et France Info. France Inter, à l'époque, se défendait comme elle pouvait.
Que nos auditeurs, qui sont anti-pub hein, pour la plupart, ne soient pas rebutés, faut bien que le service public dont les ressources sont affectées par la crise trouve des solutions. Et puis
voilà, bon, 30 minutes par jour s'ajoute quand même à la masse des partenaires et sponsors qui pullulent sur la chaîne et encadrent à qui la météo, à qui l'infotrafic, etc. Jusqu'où ira-t-on ? Eh bien la tribune se demande si on n'ira pas jusqu'à ce que les interventions de Nicolas Demorand, Thomas Legrand et autres Léa Salamé n'apparaissent plus que comme d'insipides grumeaux dans un plein saladier de pâte à crêpes publicitaires. Et en parlant de Nicolas Demorand, justement, eh bien, il est bien embêté, lui, au moment de parler de cette publicité qui lui mange sa matinale.
Et vous, que faites-vous pendant la pub ? Est-ce que vous zappez à la recherche d'une oasis, d'une terre vierge ? Ou est-ce que vous allez faire pipi, comme le suggère ce matin le Parisien, qui publie en avant-première une enquête sur nos comportements quand se présente un écran de pub à la télé ? À la télé ? Pas la radio, bien sûr. Je n'ai pas parlé de la radio. Je ne parle pas de la radio. Je n'en parle pas. Vous êtes témoin.
Voilà, on voit ce petit malaise quand même. Et ce n'est pas la première intervention de ce genre à la radio à France Inter pour parler de pub. Parce qu'on assiste quand même en quelques années à la destruction de tout un modèle radiophonique. Alors, on sait enfin maintenant ce qu'Europe 1 a donné à France Inter en échange de Patrick Cohen. Son modèle économique et plus encore sa façon de penser la radio comme une succession de pastilles insipides où l'on ne distingue plus la pub de l'info parce que tout est dit sur le même ton, tout juste bon à vous tenir éveillé dans les embouteillages matinaux. J'ai donc délaissé France Inter et me suis mis sur la petite locale qui passait de la musique, à savoir RTU, quand ce matin j'ai été réveillé par...
Juste avant que vous ne vous réveilliez, j'étais là dans,
Dans la nuit suisse autour du lac, j'ai traversé Pakis, Ovie, Vieux-Genève, Coulonges, tous ces Carouges, tous ces quartiers qui commençaient à se réveiller.
Et oui, les auditeurs les plus fidèles l'auront compris, je l'avais annoncé lorsque ça avait été publié il y a quelques mois. RTU s'est transformé en Nova Lyon il y a 3 jours. Radio Nova débarque donc à Lyon avec des programmes qui ont commencé à être diffusés ce 7 novembre. Et donc les émissions phares de Nova vont alterner avec les programmes de RTU, même si tout ça n'est pas gagné puisque le parquet national financier était saisi par le syndicat des radios indépendantes sur cette absorption de RTU par Nova. Enfin, malgré tout, pour en revenir à mes problèmes de réveil le matin, ça me permet au moins de retrouver la voix chaleureuse d'Edouard Baird dans sa matinale plus près de toi, et ça ne fait pas de mal. Et puis, pour terminer, puisque le journal radiophonique amplifié est presque fini, si jamais vous voulez prolonger avec une autre émission, le podcast de la semaine, c'est un reportage de Charlotte Perry dans Comme un bruit qui court sur France Inter, Comme un bruit qui court, la petite oasis du samedi à 16h. Un reportage sur le cirque Romanès installé dans le 16e où la journaliste tente de se pencher sur ce cirque qui fait vivre la culture tzigane. On assiste vraiment à 20 minutes d'une culture qui se sait condamnée et pose sur elle-même un regard touchant et d'une vitalité impressionnante. C'est donc dans Comme un bruit qui court et c'était il y a 2 semaines. C'était la 24e édition du journal radiophonique Amplifié, pas 24, 26, qu'est-ce que je dis, une émission coordonnée par Rémi Cerda, avec aujourd'hui Maë Burla, François-René Julliard, Marie Lécuyer, Robin Lenoir, Léa Jusso, Sarah Andria et Pierre Dedieu. On remercie chaleureusement Marie en régie, on remercie aussi ENS Média pour leur participation à la diffusion de ce direct, et puis on vous retrouve d'ici 2 semaines, donc toujours le jeudi soir à 20h en direct sur transistor.fr et d'ici là sur notre page Facebook, le journal radiophonique amplifié sur Transistor. A bientôt.
Journal radiophonique amplifié de Transistor, en direct avec vous jusqu'à 21h. Attention à vos oreilles.